France Culture. Les nuits de France Culture. L'écrivain Philippe Solers nous a quittés en mai 2023 à l'âge de 86 ans. Pour plusieurs générations de lecteurs, le nom de Solers évoquait instantanément un certain imaginaire littéraire et germano-pratin, les intrigues, les réseaux, les amitiés et inimitiés dont la vie intellectuelle parisienne a le secret. Mais avant ce dernier Solers, il y avait un premier Solers, une première vie dans laquelle l'écrivain affichait volontiers des ambitions avant-gardistes sur le plan littéraire comme sur le plan politique. C'était l'époque de la revue Telle Quelle, qui compta des contributeurs aussi prestigieux que Barthes, Bataille ou Guyotat. Tout un monde que l'écrivain aborde ici au micro d'Alain Bosquet dans un numéro de l'émission Paradoxe. C'était le 9 mars 1971.
Avant de nous entretenir aujourd'hui avec Philippe Solers, qui est à la tête de ce mouvement à la fois de littérature, de linguistique et de politique, tel quel, je voudrais tout simplement faire une remarque d'ordre général, à savoir que dans l'histoire de la littérature française, la mise en cause du côté physique du mot, de la littérature, est une chose tout à fait récente. Ce n'est guère qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale que le mot en tant que tel a été remis en cause par les dadaïstes. Et encore était-ce un mouvement international. Le surréalisme, à cet égard, est un mouvement en recul, puisque le surréalisme ne remet jamais en question la constitution même du langage. Avec Telle Quelle, et Philippe Solers nous en parlera, je crois que c'est toute la constitution même du langage qui est remise en cause pour des raisons très profondes, qui ne sont pas uniquement des raisons littéraires. Philippe Solers, que veut Telle Quelle aujourd'hui, en mars 71 ?
Bien, la base de notre action est assez complexe et diversifiée. Cette revue a porté successivement deux sous-titres. Dans un premier temps, science, un tiret, littérature. Et depuis quelque temps, un autre sous-titre, articulé par quatre mots, c'est littérature, philosophie, science, politique. C'est-à-dire que dans un premier temps, si vous voulez, il y a eu une longue tentative pour intégrer et en même temps dépasser les pratiques formelles d'avant-garde, faire une sorte de rappel, de reconstitution et de percée nouvelle d'une pratique d'avant-garde, et en même temps constituer la théorie de cette nouvelle pratique. Alors vous avez parlé des différentes tentatives des avant-gardes européennes depuis déjà un siècle pour transformer l'approche même du langage, telle qu'elle, dans un premier temps, s'inscrit dans cette historicité propre, dans cette histoire spécifique des avant-gardes européennes, essaye d'en tirer les conclusions, car c'est, si vous voulez, quelque chose de très varié, de très complexe et de très contradictoire, parfois, que l'histoire des différentes avant-gardes européennes. L'histoire, par exemple, du futurisme soviétique n'est pas du tout celle du futurisme italien. Il y a, dans les deux cas, des conséquences politiques ou idéologiques, diamétralement opposées. L'histoire, en effet, du dadaïsme n'est pas celle du surréalisme, et ainsi de suite. Donc, dans un premier temps, il faut, pour une avant-garde aujourd'hui, étudier de très près, synthétiser ces différentes expériences qui sont liées en profondeur à tout le mouvement de l'histoire moderne, contemporaine, Et si l'on pense par exemple à cette phrase très énigmatique et très belle de Lénine qui dit que l'histoire de la pensée n'est peut-être pas autre chose que l'histoire du langage, on voit quelle importance peut avoir cette observation des cas limites des différentes avant-gardes depuis surtout un siècle. Car c'est depuis un siècle, je crois, qu'on peut dater cette crise et ces différentes séries de réponses, elles-mêmes liées à toute l'histoire et à toute l'évolution des sciences et de la philosophie. Donc, il y a là d'abord une percée pratique, c'est-à-dire des nouvelles pratiques poétiques ou des nouvelles pratiques romanesques, des nouvelles pratiques de récit ou des nouvelles pratiques, ce que nous appelons le texte ou l'écriture. Maintenant, ce sont des concepts plus opératoires. Et un effort pour, et je crois que c'est ça la nouveauté, d'articuler cette pratique à une théorie. Je crois que telle qu'elle est probablement non pas la première avant-garde à essayer de faire coïncider pratique et théorie, ou de dialectiser sa pratique et sa théorie, car toutes les avant-gardes se sont toujours posées le problème de leur rapport soit à la science, soit à la philosophie, soit même à la politique, mais je crois que c'est probablement le mouvement qui essaye de le faire de la façon la plus systématique, et ceci à cause probablement d'une situation historique nouvelle, qui est d'une part que les sciences dites du langage ont progressé de façon galopante, si on peut dire, depuis un certain nombre d'années. Disons que depuis 10 ans en France, l'effet de ce mouvement absolument irréversible s'accentue. C'est lié au développement propre, d'autre part, par exemple, de quelque chose comme la psychanalyse, et c'est lié aussi à une propagation d'une science comme le matérialisme historique ou une philosophie comme le matérialisme dialectique. C'est-à-dire que, si vous voulez, telle qu'elle représente simplement la nouvelle articulation plus complexe, plus diversifiée d'une pratique du langage dit littéraire, que nous n'appelons plus nous littéraire, mais que nous désignons par d'autres mots qui sont plus opératoires pour faire comprendre de quelle opération il s'agit dans les textes que nous essayons d'écrire, avec tout cet ensemble des sciences dites humaines et de la philosophie et de l'histoire et des sciences comme par exemple la psychanalyse.
Bon, vous me parlez de sciences du langage, chose que le profane ne connaît pas. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction profonde dans la possibilité pour vous d'aller vers les masses, car je crois que c'est également une chose à laquelle vous voulez arriver? Comment apprendre à lire un texte de vous-même ou un texte de Marcellin Plénet à quelqu'un qui n'est pas les rudiments même de la science du langage telle qu'elle se présente aujourd'hui?
Alors ça, vous savez, c'est le problème de toutes les avant-gardes. D'abord, je crois qu'on ne peut pas dire que Mallarmé ait été immédiatement lisible. Vous savez bien que c'est tout le contraire qui a été dit. Et vous savez bien que la difficulté dans ce genre de choses est de distinguer entre des temporalités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est ainsi, c'est un fait objectif, si vous voulez, que, par exemple, Lautréamont a attendu tant d'années. Nous savons qu'il a fallu 50 ans avant que sa première lecture ait été rendue possible, et qu'il a fallu attendre près d'un siècle avant que, finalement, le texte de Lautréamont, toujours d'ailleurs avec des malentendus extrêmement féconds dans la lecture qu'on peut en faire, passe en livre de poche, passe en consommation courante, si vous voulez. Si on commence à étudier les temporalités extrêmement bizarres qui se place au creux même des expériences les plus radicales de la littérature, et même avant, par exemple, prenons le cas de Sade, qui demande près de 2 siècles. Alors là, il y a un problème extrêmement compliqué, et je crois qu'il faut l'analyser de façon concrète. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de donner une réponse, si vous voulez, métaphysique ou idéaliste à cette question, et penser que immédiatement on va faire coïncider abstraitement tentative qui se situe dans une progression extrêmement subtile et complexe d'un langage situé à une époque donnée avec son destinataire immédiat dans l'histoire. Ça peut se produire. C'est-à-dire que si une société se trouve dans une situation révolutionnaire, il peut y avoir, et ça c'est justement là où la fusion parfois très brève, très furtive, très éclatante, peut se produire entre une avant-garde et le mouvement des masses. Ça s'est produit. Là, dans la Russie des années 1920, on voit ce phénomène tout à fait extraordinaire tout de même, de poètes qui étaient considérés comme extrêmement difficiles, les futuristes, écrivant des textes passant pour assez illisibles, je pense au poème de Maïakovski, on voit cette espèce de fusion entre un langage de type nouveau et une révolution sociale. Mais pour ça, il faut des conditions, si vous voulez, concrètes, extrêmement précises, qui n'ont lieu que de temps en temps et dans des situations, encore une fois, révolutionnaires. La plupart du temps, il n'en est pas ainsi, c'est-à-dire que, si vous voulez, le développement de la société qui suit un développement inégal fait qu'il y a d'un côté des questions d'apprentissage de la lecture, des questions qui sont des questions massivement sociologiques ou politiques, c'est-à-dire, par exemple, problème de l'enseignement, problème de l'accès des masses à la culture, etc. Ça, c'est un niveau. Et puis, il y a des zones comme ça, différenciées, par exemple, une zone d'avant-garde qui ne coïncide que très indirectement avec les autres mouvements. Je crois que ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que de toute façon, il y a un développement inégal dans de différentes séries plus ou moins autonomes en général. Et que, parfois, dans une situation révolutionnaire donnée, alors là, on peut assister à des phénomènes tout à fait étranges, comme cette fusion entre une avant-garde et les masses.
Oui, vous répondez, je dois dire à moitié déjà, à la dernière question que je vous poserai, qui est celle tout de même extrêmement importante, de la fusion d'une avant-garde et d'un instinct populaire. Mais avant ça, est-ce qu'un écrivain qui n'a pas les connaissances linguistiques, c'est-à-dire scientifiques du langage, tels que vous, Derrida, Kristeva et d'autres le prônent dans le détail. Est-ce que cet écrivain, avec un simple instinct, né dans une bourgeoisie ou pas, peu importe, peut écrire quelque chose qui soit de votre bord? Jusqu'à présent, tout de même, la plupart des génies littéraires n'étaient pas nécessairement des génies de science. Or, est-ce que cela est possible? Quelqu'un qui ne lit que le journal, ou qui lit Sartre, peu importe, n'est-ce pas, qui entre dans un texte de Solers ou de Plenet sans préparation, a-t-il, selon vous, la possibilité, je ne dis pas de comprendre, la question ne se pose pas ainsi, mais disons de participer au texte qui est devant vous? Il me semble que la réponse, jusqu'à présent, dans notre société, et même dans les sociétés organisées d'extrême-gauche, car nous allons arriver à cela, est négative.
Oui. Je pense que c'est encore une fois une série de problèmes très complexes qu'il faut se garder de résoudre hâtivement. Votre première question est la suivante, est-ce que quelqu'un qui écrirait purement d'instinct, donc c'est la question du génie, bon, nous avons plutôt tendance à nous méfier de ce terme, peut arriver à produire un texte qui soit en corrélation avec notre recherche? Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est une chose, si vous voulez, de faire un mouvement d'avant-garde structuré, actif, et qui essaye de penser à la fois la pratique et la théorie en dialectique. Et puis c'est une autre chose de pratiquer, et d'ailleurs la plupart d'entre nous sont des gens qui sont immergés dans la pratique même du langage, qui en sortent, si vous voulez, pour y revenir, à travers la théorie, mais dont la pratique principale, première, est une pratique de langage. Et il peut très bien se produire qu'en un lieu à l'écart, n'est-ce pas, dans notre société, une immersion profonde dans la pratique même du langage retrouve non seulement la nôtre, mais l'espèce d'articulation que nous faisons avec la théorie. Je prendrai par exemple le cas récent livre de Guyotard, qui est un livre tout à fait extraordinaire et qui se révélera comme tel, j'en suis absolument sûr, de plus en plus. Guyotard n'est pas, je pense, quelqu'un qui s'intéresse au premier chef à la théorie littéraire, mais qui a atteint de son côté une pratique tellement profonde du langage que, tout naturellement, les résultats auxquels il est parvenu coïncident, recoupent certains des nôtres. La seconde question est évidemment difficile. Vous savez que c'est le problème de tout l'art moderne. Bien entendu, on dit, si il n'y a pas préparation, comment d'ailleurs écouter davantage un morceau de Stockhausen, ou comment regarder la peinture de Mondrian, si on ne connaît pas le développement propre de la peinture ou de la musique occidentale. Il est certain que je pense que le problème se pose de façon absolument globale, et que c'est une illusion tout à fait idéaliste de penser que n'importe qui peut avoir accès à l'histoire, disons, des différentes formes d'art, entre guillemets, comme ça, naturellement, bien entendu. C'est une illusion qui est limitée à une certaine idéologie, qui est l'idéologie de la classe dominante aujourd'hui, qui considère que un certain type de produits sont immédiatement lisibles, immédiatement consommables par n'importe qui. Et ça, je crois que c'est très faux. Pour lire quoi que ce soit dans l'histoire de la littérature, pour écouter quoi que ce soit dans l'histoire de la musique, ou pour voir quoi que ce soit dans l'histoire de la peinture, il faut connaître l'histoire de la littérature, il faut connaître l'histoire de la peinture, il faut connaître l'histoire de la musique. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, dans un premier temps, prendre un contact de type impressionniste, recevoir un choc, si vous voulez, pour un sujet qui est perdu et qui ne dans une espèce de qui n'est pas préparé à un fonctionnement symbolique de cet ordre, il peut très bien recevoir le choc de telle ou telle production moderne. Mais alors, s'il veut arriver à lire vraiment complètement son choc inconscient, il faudra évidemment qu'il s'intéresse à l'histoire, à toute l'histoire de la littérature, à toute l'histoire de la peinture, à toute l'histoire de la musique. Sans quoi, ça restera, si vous voulez, une impression subjective et quelque chose qui est de l'ordre de la consommation purement épisodique. Ça, je crois que on doit éviter. Alors ça pose un problème qui est encore une fois un problème qui n'est pas du tout lié au fonctionnement des différentes avant-gardes. C'est un problème sociologique. C'est en effet, dans tel ou tel pays, dans telle ou telle société, comment faire pour que le plus grand nombre possible de gens participent un jour ou l'autre à la culture. Alors, vous parlez d'un fonctionnement négatif dans les pays socialistes.
Non, je voudrais, si vous voulez, qu'on garde la question sociale et politique pour la fin. Je voudrais vous poser une question un petit peu précise qui recoupe ma propre question tout à l'heure. Mmh. Est-ce que vous récusez le choc et le processus mental causé par un de vos textes chez quelqu'un qui n'aurait pas lu l'ensemble de vos théories, qui se trouverait devant un texte de vous dont on ne sait pas, si vous voulez, malgré la structure qui est très possible, dont on ne sait pas d'abord ce qu'il signifie. Mmh. Supposez que cet obstacle soit ou surmonté naturellement ou surmonté par une espèce de défi. À ce moment-là, on se trouve devant un morceau de littérature, un texte, qui est fait d'images incomplètes, de situations avec des références à d'autres situations, les possibilités étant énormes, une psychologie qui est ou cachée ou inexistante, et quelques bribes, quelques éléments qui semblent extérieurs à la phrase, à la constitution du langage laquelle tout de même existe, c'est-à-dire des blancs, des crochets, des parenthèses et quelquefois des idéogrammes chinois. Est-ce qu'il est faux, à votre avis, au fond, de recevoir cela dans l'ignorance? Pourquoi faut-il que cette connaissance livresque soit telle qu'elle soit d'abord digérée avant qu'on ne puisse avoir le plaisir du texte?
Non, je pense que tout ça n'est absolument pas contradictoire. Je pense qu'il y a deux sortes d'ignorance, comme il y a deux sortes d'ailleurs de savoir. Vous savez que ce que nous écrivons ou ce que nous recherchons est en général récusé très violemment par des savoirs qui sont très organisés. C'est-à-dire que il y a une lutte entre deux types de savoir, comme il peut y avoir une différence très profonde entre deux types d'ignorance et deux types d'approche du texte. Il peut y avoir, par exemple, si l'on suit la façon dont un sujet donné, qui n'est pas forcément au courant de tel ou tel aspect du savoir contemporain et de la lutte dans le savoir, atteint par ses propres moyens, comme ça, instinctivement, si vous préférez, telle ou telle formulation esthétique qui lui paraît être relevée d'un fonctionnement nouveau, il est certain qu'on aura des raisons soit sociales, soit sexuelles, profondes, qui peuvent évidemment fonctionner chez ce sujet et l'amener à s'intéresser à ce fonctionnement d'un type nouveau qui répond pour lui au sentiment, si vous voulez, de décalage ou d'étrangeté qu'il a lui-même par rapport à ce qu'on essaye de lui imposer comme savoir et qui ne lui paraît pas correspondre du tout à son expérience concrète. Donc je crois qu'au contraire, l'art moderne peut susciter, nous en avons de nombreux exemples, peut susciter chez des lecteurs ou chez des spectateurs extraordinairement éloignés de se poser des problèmes théoriques un accord et même un intérêt très vif, parce que tout à coup, ils découvrent justement ce décalage. Et si ce décalage n'existait pas dans notre société, nous serions précisément dans une société de type mort qui n'aurait plus qu'une homogénéité de langage tout à fait répondant, si vous voulez, à quelque chose qui serait un dogme. Bien. Alors, d'autre part, il y a aussi... il n'est pas absolument nécessaire, si vous voulez, de connaître la science pour accéder à la pratique d'avant-garde. Mais, d'autre part, il serait faux de dire que ça serait, si vous voulez, une erreur formaliste de récuser la liaison dialectique entre ces pratiques formelles et l'essai pour les éclairer, pour les expliquer, pour les théoriser. Car je pense que là, il y a une chose très évidente, c'est que nous entrons en conflit avec le savoir contemporain, nous entrons en conflit, et un conflit qui est encore une fois dialectique, avec l'enseignement, avec une certaine théorie du langage ancienne, et à laquelle il faut porter des coups. Alors si vous voulez, je crois que là, il faut comprendre que nous nous battons sur un double registre. Nous nous battons à la fois contre une ignorance cultivée et une culture ignorante. C'est-à-dire que, à la fois, nous essayons de toucher précisément dans les zones qui résistent à l'idéologie dominante, de toucher justement cette force initiale qui a besoin de transformation, parce que c'est un besoin très profond, social, historique ou sexuel, n'est-ce pas ? Et d'un autre côté, nous essayons de donner la théorie qui lutte contre la vieille théorie qui, elle, est aussi... Vous savez, nous ne sommes pas les seuls à théoriser. Toute la société dans laquelle nous sommes a une idéologie, une théorie, du langage, du texte, etc. Et tout ça s'enseigne, tout ça se répète. Et précisément, ce qui est intéressant, c'est de faire apparaître un conflit entre un nouveau savoir et un ancien savoir.
Est-ce que passer dans la psychologie, dans tout simplement l'effervescence intérieure de quelqu'un d'autre qui n'emploie pas vos termes, est quelque chose que vous pouvez admettre ou pas?
Mais parfaitement, on peut tout admettre. Il y a des problèmes de traduction, de passage d'un niveau à un autre. Tout est possible. Ce qui nous intéresse encore une fois, c'est de, comme tout mouvement d'avant-garde, il doit se définir par une certaine terreur. C'est sans quoi ça, le jeu ne serait pas profondément joué. Donc nous sommes obligés d'avoir cet aspect, si vous voulez, limité, un peu expérimental et un peu terroriste, qui garantit, si vous voulez, l'autonomie et le relief ou le profil de l'expérience, sans quoi tout ça se dissoudrait, si vous voulez, dans quelque chose qui n'aurait pas le même impact. Mais il est très probable, il est même certain que, si vous voulez, avec le temps, et encore une fois, là, les questions de temps me paraissent les questions principales sur lesquelles il faut insister beaucoup, parce que, en général, les gens n'ont pas conscience que tout, encore une fois, se développe de façon inégale et que le développement de l'histoire de la culture n'est pas le développement de l'histoire du langage lui-même, qui n'est pas le développement de l'histoire de la société, qui n'est pas le développement des forces économiques, etc. Donc, il y a là des temporalités différentes. Et je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, de même, par exemple, si vous voulez que le surréalisme est devenu une marchandise de consommation absolument courante, et même une idéologie dominante, et même, si on peut dire, une idéologie très répandue et très réactionnaire aujourd'hui, j'espère qu'il n'en deviendra pas de même de telle qu'elle avant très longtemps, mais... je suis persuadé qu'un jour ou l'autre, ce que nous faisons aujourd'hui sera, si vous voulez, diffusé assez largement et assez massivement, réinterprété, récupéré, déformé, etc., avec toutes les conséquences que ça peut supposer, bien entendu. Et je pense que ça l'est même, d'une certaine façon, déjà, si vous voulez. Mais ce qui importe pour un mouvement d'avant-garde, c'est donc toujours de précéder sa propre temporalité, c'est-à-dire d'essayer de contrôler, de régler les effets même que ça peut produire, et même les effets au futur.
En 1928... le surréalisme s'est trouvé devant une option politique extrêmement pressante. Et en 1930, la scission et la décision étaient là. Une grande partie du surréalisme a opté pour le communisme léniniste plutôt que pour son propre côté échevelé d'avant-garde non politique jusque-là. Depuis quelques années, telle qu'elle s'achemine de plus en plus vers la gauche. Quelle gauche ? Je pense que vous avez été proche du maoïsme, j'ai l'impression que vous êtes infiniment plus proche du communisme de Moscou. Où êtes-vous politiquement ? Pourquoi diable faut-il que vous suiviez, que vous sympathisiez avec un mouvement qui existe ?
Alors, d'abord, où sommes-nous ? Nous sommes en France, à Paris, en mars 1971, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les positions que nous sommes amenés à prendre, en général, sont prises selon l'appréciation concrète de la situation concrète en France aujourd'hui. Et le problème que nous trouvons sur notre route, où nous n'avons pas inventé, est en effet, a toujours été, le problème des avant-gardes européennes. Depuis un siècle, c'est cela qui est important de voir. Quand vous dites que le surréalisme a trouvé cette question sur sa route, il ne pouvait pas ne pas la trouver. Et c'est ça l'important. De même que les futuristes italiens versant dans le régime fasciste ne pouvaient pas ne pas trouver non plus cette question, et on peut l'étudier très bien historiquement. On peut très bien comprendre comment, par exemple, un poète comme Marinetti, qui est quand même assez considérable à l'époque, devient un des piliers du régime mussolinien à un moment donné. Donc il y a des effets, si vous voulez, réactionnaires. Vous savez qu'un poète, par exemple, comme Ezra Pound, qui est un poète considérable, n'a pas pu ne pas trouver lui aussi la question politique sur son chemin. Vous savez que les futuristes russes n'ont pas pu ne pas trouver la question de la révolution sur leur chemin. Il en a été de même des surréalistes, et je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une erreur, je crois qu'au contraire, il s'agit d'une nécessité objective qui fait que, tout simplement, on ne peut pas faire autrement si l'on est dans un mouvement d'avant-garde qui essaye de transformer des formes...
Alors, quelles sont vos sympathies actuelles ?
Bien. Attendez, je parle encore un peu du surréalisme. Eh bien, si vous voulez, la question qui me paraît essentielle, c'est que, telle qu'elle va dans ce sens depuis déjà 4 ou 5 ans, vous savez bien quand même qu'il y a eu en France un événement assez considérable qui s'est passé en mai 1968 et qui, au moment même où on avait pu avoir l'impression d'une stagnation... politique, il s'est passé cette explosion donc, qui a été extrêmement importante et qui, au niveau théorique, idéologique, correspond, à notre avis, à une relance, à une reprise, à une extension, à un déplacement de terrain du marxisme-léninisme lui-même. Et tout simplement sous la pression de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au niveau de la lutte mondiale, si vous voulez, c'est-à-dire la vulnérabilité de l'impérialisme américain, par exemple en Asie. Et je pense que ce déplacement vers cette énorme scène nouvelle qu'est l'Asie est le phénomène le plus important de notre époque. Il est évident, si vous voulez, que cette chose-là n'était pas visible à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ou elle l'était peut-être pour quelques informateurs ou quelques intellectuels, mais très rares. Et c'est d'ailleurs pourquoi, là je parle tout à fait en mon nom personnel, certaines de camarades ne sont peut-être pas d'accord ou donneraient à cela une importance moindre que moi, personnellement, je ne lui en donne. Mais c'est là mon option, si vous voulez, personnelle. Mais je pense qu'en effet, et rien n'est plus important aujourd'hui que d'essayer de comprendre cet énorme phénomène qui, si vous voulez, au début du 21e siècle, là, ça n'est pas de la prophétie, c'est simplement du calcul logique, apparaîtra comme un événement formidable qui transforme énormément de choses par rétroaction, et encore une fois par une rétroaction complexe, qui n'est pas, si vous voulez, de l'ordre de l'exploitation de type gauchiste, entre guillemets, qu'on peut en donner aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est de commencer à comprendre comment cette énorme poussée, à ces différents niveaux, va... produire inévitablement une transformation culturelle mondiale. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Seulement, c'est compliqué. Il faut toujours redire, si vous voulez, que les implications politiques des mouvements d'avant-garde se passent dans une extrême complexité, dans la mesure même où on essaye de saisir non pas la source du phénomène, car nous ne sommes pas un mouvement politique, j'insiste beaucoup là-dessus. Nous sommes un mouvement de lutte idéologique qui essaye de penser comment les transformations politiques amèneront des transformations inévitables dans l'ordre de la pratique des différents langages. Et de ce point de vue, par exemple, la Chine représente un fait, si vous voulez, absolument incontournable aujourd'hui, il me semble.
Supposez qu'il vous arrive cette catastrophe d'être accepté ou par Moscou ou par Pékin, je crois que vous ne l'êtes ni par l'un ni par l'autre, que d'ailleurs vous n'y allez pas, mais supposez que cette caution vous vienne. Pour des raisons que l'on peut deviner. Est-ce que, à ce moment-là, vous auriez tendance à vous rebeller contre cette caution ou pas ? Ou est-ce que vous tomberiez dans le piège d'un engagement qui, finalement, demanderait, entre l'extrême pointe de votre pensée et une action collective, une sorte de conciliation, à mon avis, pour l'instant impossible.
Non, écoutez, il est tout à fait aberrant d'imaginer que la moindre caution d'aucun ordre puisse nous venir des régions dont vous parlez. Encore une fois, il ne s'agit pas pour nous d'un engagement de type politique, il s'agit d'un travail sur les formes du langage et de l'idéologie, et d'un travail qui essaye de comprendre pourquoi, par exemple, le matérialisme dialectique est quelque chose qui devient de plus en plus la base d'une réflexion philosophique possible. Comment le matérialisme historique permet de comprendre l'évolution de tel ou tel aspect du langage, la stratification de la pratique du langage dans l'histoire et des sociétés. Alors, il n'est pas du tout question pour nous de devenir, si vous voulez, l'émanation ou l'illustration de telle ou telle position ou posture politique. Nous pouvons, nous, dans notre pratique, au moment de l'intervention politique, dire, par exemple, telle ou telle chose qui nous situe par rapport à, au moment politique. Mais il ne s'agit absolument pas de devenir, justement, quelque chose qui ressemble à une action de type engagé. C'est là, ça je crois que alors, c'est tout à fait exclu, a priori.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mars 1971.